Malgré les menaces budgétaires, nous sommes toujours là sur Canal B. Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de cette radio associative.
Pour le moment.
Pour le moment, rappelons-le. On est toujours là. 513e émission de Plume et Pinceau. Une émission inspirée de Quai des Bulles, puisqu'on va retrouver aujourd'hui Monsieur Romain Bertrand, qui était venu nous présenter les sentiers de, vous le dites bien,
d'Anahuac,
vous le dites parfaitement bien.
Un ouvrage magnifique qui est carrément à la frontière de la bande dessinée, je dirais. On est même, c'est marrant parce que je vous avais
roman
déjà
roman graphique,
fait,
ouais.
Je vous avais, ouais, pour moi, c'est presque même pas un roman graphique non plus. En fait, ça ressemble à ce que c'est un livre d'histoire.
Oui, bien sûr.
Avec une partie de fiction quand même,
ouais.
Toute petite. Mais qui est inclus dans cette espèce de construction délirante avec les reprises du dessin.
À la fois des gravures espagnoles, est au Mexique, on est au 15e siècle, l'Espagne a donc conquis le Mexique. Dès qu'on va être dans l'univers en fait, des conquistadors, la ville, etc., ça va être dessiné en gravure et quand on va être les autochtones, noir et blanc, et quand on va être du côté des autochtones, ça va être un dessin beaucoup plus rond, inspiré des codex, et coloré.
Plein de couleurs, et en plus avec des petits idéogrammes, comme le personnage qui parle avec les petites vagues. De la bande
Le format dessinée. Aussi fait que l'objet a ce côté effectivement presque codexial ou encyclopédique. Puisqu'en fait, c'est le sujet du bouquin aussi. Ça, c'est le boulot de Jean Dittard, le dessinateur. Nous, on a eu le Romain Bertrand, le scénariste, un historien, qui est venu parler de ce excellent album, donc qui raconte en fait comment le prêtre franciscain Bernardino de Sahagún,
qui a existé,
va être à l'origine d'un projet de conservation de la culture aztèque. De son imaginaire
véritablement un dictionnaire quoi.
Ouais, un dictionnaire, une encyclopédie sur les Aztèques, les civilisations qui venaient d'être colonisées. On est 20 ans après la colonie. Une entreprise de sauvegarde en fait pour mieux connaître, pour mieux christianiser derrière, mais ça va se lancer dans une opération de sauvegarde de cette culture en fait.
Et grâce à laquelle on a justement sauvé tout ça. Et on voit également le trajet d'un personnage indien lui dont on a même conservé une trace au musée
historique,
de Séville, un courrier qu'il avait envoyé au roi d'Espagne, vous voyez. Et on découvre effectivement un univers auquel j'avais jamais pensé, effectivement, quid des Indiens 20 ans après la conquête, quoi. Comment ça s'est passé, justement, cette transition entre l'arrivée des Espagnols et puis l'installation définitive des Espagnols, etc. Ils en sont encore à construire leur cathédrale, quoi. C'est impressionnant, avec donc Romain
Le personnage
Bertrand,
d'Antonio, effectivement, élevé par des curés, et notamment par
franciscains.
Élevé par ce prêtre, là, franciscain Bernardino. Il va être impliqué dans ce projet qui va l'amener à se poser des questions sur son identité à lui, puisqu'il est très, très christianisé, quoi. Il se mariera même à l'église, on le verra. C'est inspiré, effectivement, de personnages qui ont vraiment existé et qui sont à l'origine de ce codex de Florence.
Voilà, vous découvrirez tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Auparavant, on aura sûrement quelques brèves à vous faire part.
Et un peu de chronique.
Ah, je voulais dire quand même, c'est quand même un professeur de la Sorbonne, hein, Romain Bertrand. Alors j'ai reçu notre copie, on a eu 15.
Ouais, c'est bien. Ah ben, on avait bossé le dossier quand même. On avait presque lu le joli dossier qui est à la fin encore.
Ah, je lui ai dit Corsis. Corsis, non, c'est plus de mon âge.
Ouais. Et puis de la musique. Allez, on commence tout de suite avec Orchestra Obsolète.
Ah oui, ça c'est une dédicace que je vous fais là. C'est marrant ça.
C'est gentil.
Mais vous le connaissiez déjà en fait.
Thank you.
Excellent cover du Blue Monday de New Order. Bravo Roger,
ouais,
excellent.
J'aime bien le groupe cover.
Ouais.
C'est jamais la même formation. Parfois c'est même des chanteuses. Mais il y a toujours des choses très intéressantes. D'ailleurs j'en ai encore une autre mise de côté pour vous d'ailleurs.
Ah c'est gentil, c'est gentil. Alors on a évoqué Quai des Bulles. On peut peut-être venir parler 5 minutes du palmarès quoi.
Alors le palmarès je l'ai sous les yeux parce que j'ai le bilan officiel, vous voyez.
Ah lui.
Ouais. Alors le grand prix c'est Tony Valente. Valente.
Alors je dois avouer que ça m'a surpris.
Alors on est comment dites-nous de quoi il s'agit avec
Tony Valente. On est dans le manga en fait.
Voilà, c'est pour ça que je vous laisse la parole parce que c'est un peu vous le spécialiste.
C'est son manga Radiant là dessiné par Tony Valente qui est un Français en fait. Hein. Il vit à Toulouse. Mais il a réussi à percer dans le monde du manga en respectant les codes vraiment du manga d'action japonais. Je suis un peu surpris. Je me demande ce que ça va donner comme affiche, quoi.
Bah, c'est toujours.
Mais c'est intéressant.
À chaque fois, on a des surprises.
Confronté.
Parfois, on est convaincu, parfois on l'est moins. Moi, j'ai mes chouchoutes comme affiche. Je me rappelle d'une affiche de Bruno délirant, totalement. Une des plus spectaculaires pour moi, c'est celle-là, où on voit cette espèce de monstre de pirate avec plein de
tentacules,
plein de tentacules.
Un truc à la Lovecraft.
Noir sur fond rouge.
Ouais, je l'ai dans mon bureau.
Et puis, à l'inverse, on a parfois des affiches minimalistes comme celle de Bouzard, dont finalement, qui se révèle être une réussite, puisque désormais, le Goéland de Bouzard, c'est quand même...
Une institution.
Une icône. Une icône, et qui participe à l'identification du festival, en plus. C'est quand même pas rien. Donc, vous voyez, on peut s'attendre à tout. Donc, on verra ça l'année prochaine. Le prix du meilleur album, pareil, moi, j'ai pas lu ça, moi. Solideo Gloria.
Alors, il paraît que c'est très bien.
C'est une histoire de... avec ça.
C'est une histoire de jumeaux. En fait, vous connaissez pas. C'est une histoire de jumeaux. Ça se passe, je sais, 17e ou 18e siècle. C'est des musiciens, mais à ce moment-là, si tu veux, l'Europe, et notamment l'Europe un peu germanico-belgio, etc. Là, vraiment, c'est ce coin-là. Il y avait pas mal de violences, d'épidémies, de famines, de guerres, de pillages. Ils sont plongés là-dedans. Mais on en a parlé. Il paraît que c'est très bien. En tout cas, la couverture est très jolie avec ses dorures.
Eh bien, merci. Sinon,
je pourrais pas toujours vous rattraper, Roger. Hein. À un moment, il va falloir prendre un peu d'initiative.
Je crois que pour tout le palmarès,
parce que là, à part,
c'est vous qui allez vous y coller, parce qu'il n'y a pas le prix Charlie Schlingo à Quai des Bulles. Faudra qu'on leur propose d'ailleurs un prix plume et pinceau, tiens.
Oui.
On va leur proposer un prix plume et pinceau. C'est s'il faut donner des sous. Hein. Nous, on peut pas. Nous, déjà, à Canal B, si on peut nous filer une casquette ou un briquet ou quelque chose. En plus, il pleut. Alors, attendez, encore un autre prix sur lequel je ne connais rien. En tant qu'affaire, autant se rouler dans la bouillasse. Donc, prix du meilleur album, je sais pas. Prix Ouest France, L'abîme de l'oubli de Paco. Alors, Paco Roca, lui, je connais. Et Rodrigo Terrassa, aux éditions Delcourt.
Ouais.
Cet album-là, on l'a pas connu, mais Monsieur Paco Roca, on le connaît depuis longtemps. Et je me rappelle avoir été particulièrement touché par un album qui parlait de la maladie d'Alzheimer, avec un vieux monsieur qui partait. Et on voyait comme ça plein de pensionnaires, femmes et hommes, qui étaient regroupés. Et quand ils étaient plongés dans leur passé, pouf, ils redevenaient jeunes. Vous rappelez un ouvrage très très sensible qui parlait d'une abomination. Paco Roca, on l'a déjà chroniqué, vous voyez.
Ouais, ouais, ouais. C'est dessinateur espagnol. Et je crois que cet album, justement, L'abîme de l'oubli, c'est sur une jeune fille, je crois, qui recherche les traces, qui retrouve la tombe de son père qui a été fusillé par les franquistes.
Oui, ça doit être ça. Exact. Bien, bien, bien.
Mais là, je vais être à sec. Hein, si vous commencez, là, vous avez les principaux, mais je suis sûr que vous allez m'en trouver un qui, on va avoir juste l'air idiot.
Avec Roman Oliver.
Heureusement que c'est de la radio.
Voilà. Avec les gens ne reconnaîtront Oliver, pas. Le Grand Prix Jeune Talent, tant mieux pour elle. Voilà. Je ne la connais pas non plus. Mais non, mais je reconnais. Je veux dire, on peut pas tout faire.
Ah, ça, bon. C'est du journalisme. Voilà. Ah, ça. Ça, c'est du
ouais,
beau
je vous avais dit, vous étiez là, ouais, on va parler du bidon de Quai des Bulles. Alors, moi, je me dis.
Mais je pensais aussi qu'on allait parler de notre vécu de Quai des Bulles.
Ouais, moi, des bistrots, etc. C'est ça.
Ouais,
plus.
Moi, j'ai retenu de la pluie, pas mal.
Ouais, pas mal de pluie quand on est sorti. J'ai reconnu aussi comment je croyais qu'on allait parler du fait que vous avez failli nous quitter pour vous engager sur le bateau, le René Pleven. Après une soirée dantesque passée avec le Bosco, vous avez donc passé à l'entretien. C'est pas bien passé, en fait.
Si, c'était mais j'ai dégrisé. Non, mais je pensais aussi comment elle s'appelait. J'ai jamais su son nom finalement. La petite dame qui était
le service d'ordre.
Le service d'ordre qui était à l'entrée de la salle de presse en bas.
Gentil comme tout.
Je sais pas son prénom. Je sais pas si vous l'avez.
Elle s'est collée les 3 jours, la pauvre chérie. Je lui ai même pas proposé
très sympa.
Le café. Ouais.
Ouais.
Et puis voilà, et puis toujours les riffs électriques.
Et beaucoup marché. Et les riffs électriques.
Voilà.
Bon, la vie, quoi.
Vous me rassurez, je croyais que vous vouliez parler de bande dessinée.
Non.
Si, quand même, sinon, pour résumer, on est très content parce que j'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'étais pas là, voilà. Mais très content, moi, perso, d'avoir rencontré des gens comme l'énorme, le grand Monsieur Thibaut Soulcier.
C'est pas parce que vous avez un nouveau pote qu'il faut le présenter à tout le monde.
Et c'est gentil d'avoir passé son interview. Faut que je lui envoie le lien.
Oui, on a fait pas mal de
ouais, rencontres. Coco, rencontré Coco dans le même domaine. Et puis aussi, ce monsieur-là, Romain Bertrand, avec les Sentiers d'Anahuac. Et puis plein de gens sympas. Monsieur Marivin, comment dirais-je.
Monsieur Rodolphe, on peut pas éviter Monsieur Rodolphe.
Voilà. Qui sait. Enfin, on a vu vraiment que des gens.
Tancrel.
Fort sympathiques, ma foi. Voilà, mais on va les
découvrir. Vous découvrirez ça au fur et à mesure, au petit.
Alors, on continuera quand même naturellement avec Miss Matadora.
À bien se renseigner sur les BD qui sortent.
Miss Matadora, Monsieur Mister, comment dirais-je.
Fifrelin.
And Mister.
Alors, Carpetto.
Carpetto, voilà. Donc,
je ne pourrais pas toujours vous rattraper, Roger.
Ils vont revenir. D'ailleurs, Miss Matadora sera là la semaine prochaine pour ses bonnes BD Télérama.
Ah voilà. Oui, du coup, on pourra vérifier qu'on a tout bien chroniqué avec le fameux jeu.
Oh, bon, non, c'est pas le jeu. C'est le prix FIBD, c'est le prix Télérama de la BD. Bonjour.
Qui casse bon, qui casse bon.
M'en fous, moi, je vous parlerai la semaine prochaine de mes années à Rakiri, de Joub et Nicobi et de Daniel Fuchs.
Ok. Un petit interlude musical, mon Roger.
Yes.
Et puis on va faire quelques chroniques.
Ouais.
Alors, à moins que vous ayez encore des choses à dire. Bon, un interlude musical.
J'ai encore des choses à dire,
Vous avez toujours quelque chose à dire.
Toujours.
Musique. Boss, c'est sûr, on est dans une programmation musicale automnale pour ce début d'émission.
Moi, je dis que c'est raccord pile poil avec ce dont je vais vous parler ce soir et puis avec la météo. Effectivement, c'est impeccable. Est-ce que vous voulez que je vous refasse la grande liste des maisons d'édition qui risquent
de disparaître.
Alors, vous rappelez
Rookmuth.
Rookmuth, ça. Ils n'ont pas encore touché le fond. Alors, je vous dirais, Rookmuth. Alors, moi, j'aimerais bien aussi. C'est pas pour dire.
Je vous ai lancé.
Mais là, les gars, moi, j'arrivais. Mes objectifs à Quai des Bulles, c'était aussi de refaire ma garde-robe.
Textile.
Mais textile. Et ils avaient prévu, ils avaient annoncé la sortie de t-shirts, deux fruits et légumes, tous les jours, non merci.
Fantardise.
Eh ben, rien. Ils n'avaient rien du tout.
Trop lourd.
Je sais pas.
Trop lourd à
amener. Ces gens-là ne veulent pas devenir riches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je suis un peu déçu. Il me dit oui, attendez. Et j'ai vu, il faut commander sur le blog. Ouais, sur le site. Mais là, je sais pas si j'ai bien vu, mais je crois que le site est fermé pour les vacances de Noël, début novembre.
C'est le seul site qui doit ouvrir à des heures de bureau.
Je sais pas, ils doivent avoir un exfiltré soviétique ou coréen du Nord qui leur fait leur comptage, j'en sais rien. Enfin bref, Rookmuth, moi je désespère. Je désespère de bien m'habiller et je désespère de pouvoir leur acheter un t-shirt un jour. D'autre part, bon, alors il y a les éditions Uchi Kuchi, les éditions Rookmuth, qui ont déclenché les opérations tirelire, les requins marteaux, je vous avais dit, au printemps dernier, Ciné mensuel a disparu au printemps, vient d'arriver le dépôt de bilan des humanoïdes associés et de la boîte à bulles. Et voici que maintenant...
Dépôt de bilan, hein, oui.
Ouais, ouais. Alors, de même que ça ne va pas très fort pour les éditions, ça et là. Et là, c'est carrément, selon l'article que j'ai piqué dans Actua BD, au rôle autour de l'association, de tirer la sonnette d'alarme qui dit que, c'est... l'affaire est mal emmanchée, comme l'affaire est mal embranchée pour nombre d'éditions indépendantes. Plusieurs facteurs, il y a aussi les productions, j'en parlais encore.
Le papier a beaucoup pris. Le coût du papier
a augmenté, les productions sont toujours autant pléthoriques, et j'en parlais encore avec les représentants de la boutique dont nous tairons le nom pas plus tard que hier soir, mais ils sont désespérés. Où voulez-vous qu'ils les mettent? Ils n'ont pas des murs en caoutchouc, vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y a plein de sorties... pas étonnant que maintenant, c'est les épiceries qui vendent du Astérix, hein, qu'est-ce que je vous dise à propos. C'est vrai vous pouvez trouver Astérix dans les supermarchés en tête de gondole. Mais c'est pas tout à fait la même chose pour l'association. Voilà. Donc l'association, après, dans cette longue liste qui va bien avec la météo pourrie, je rappelle l'association quand même, nous, on n'en parle pas forcément hyper souvent. Hein, c'est plus des gens qui savent lire, hein, qui vont parler de l'association quand ils viennent dans notre émission. Moi, de temps en temps, quand même, chez les...
Pourquoi vous nous faites passer, franchement?
Vous en parlez, des bouquins de l'assaut, vous?
Vous êtes déprimé en ce moment, vous nous dévalorisez, là. Vous, non, mais vous êtes down?
Un peu, mais comment, enfin, bref. Il y a quand même des choses, comment... Si, j'ai chroniqué des tout petits bouquins, vous savez, pattes de mouche, qui font un tout petit... qui vendent sur le, comment dirais-je, le haut du comptoir. Donc voilà, en tout cas, il faut quand même rappeler que c'est eux qui ont fait découvrir notamment Nicolas Mahler. Et là, on est dans le comique, Nicolas Mahler, qui s'est très très barré. Il y a Massimo Mazzioli, un ancien, Chris Ware, Joe Daly, enfin, ils ont fait des grandes signatures, sans parler des fondateurs. Et ben voilà. Voilà ce qui arrive quand, effectivement, on n'a plus les sous pour acheter des bandes dessinées. Alors, c'est vrai que tout ça tombe dans un phénomène aussi, Jean-Claude Menu, un des fondateurs, qui s'exprime. Mais le souci, c'est que, vous voyez bien, si plus personne n'a de sous, plus personne n'a de sous. C'est plus ça. Vous voyez, le loyer, non mais sans déconner, ça paraît être une évidence, sauf pour nos gouvernements qui ne veulent pas indexer, par exemple, le salaire minimum et les autres sur l'inflation. Et au fur et à mesure, ça commence à tirer. Et peut-être que les gens font l'impasse sur des choses sur lesquelles ils se faisaient plaisir plus souvent en achetant plus de BD aussi.
Ouais, parce que maintenant, on va dire, pas dans la BD alternative, quand on va chercher chez Rue de Chèvres, Delcourt, etc., on a de plus en plus de très beaux albums, quoi. Des très beaux albums et qui valent du coup beaucoup plus cher qu'avant. Un album à 30, qui dépasse les 30 euros, maintenant c'est assez courant, quoi. Là j'ai Silent Genie, par exemple, ça c'est du plus de 30 euros, c'est 32 euros. Voilà. Le magnifique Tancrel, la Terre Verte, là, avec Erol chez Delcourt, pareil, je crois qu'on doit être dans les 30 balles. Donc, si tu veux les... Et c'est bien, en fait, hein, c'est des beaux objets, c'est valoriser aussi le travail de l'artiste, etc. Mais si tu coûtes, achètes quelques albums, on va dire, un peu plus... pas mainstream, mais disons, tu sens que c'est des must-have. C'est sûr que les trucs alternatifs, tu regardes, mais tu t'as plus le budget, quoi. Tu peux plus suivre parce que t'as déjà foutu 30 balles dans une BD que
si
tu penses vraiment.
Des séries,
t'as plus de trucs plaisir, quoi.
Ouais. Le petit coup de cœur, etc.
Le petit coup de cœur.
Ça boule, quoi. Non. Moi, je dis, il faut faire la révolution. Brûlons tout.
J'ai l'impression d'être dans les tontons flingueurs, le furtif du dimanche. il est plus là. Il a disparu.
Bah oui. Non, mais c'est clair que
maintenant les jeunes boivent des eaux de Vichy.
Eh ben, on demandera justement, puisqu'on aura une représentante de la boutique dont nous tairons le nom. Nous leur demanderons si le prix du panier moyen, pour parler économie, a évolué chez les clients de boutiques de BD. Ce sera intéressant de savoir ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se met un petit morceau de musique et on commence à chroniquer?
Au moins une chronique quand même, au moins de faire remonter le moral. J'ai au moins un bon remède à la mélancolie.
D'accord. Bah tiens, on va se booster. pas de vagues avec Figlar. Alors, vous y paraît que vous avez un remède au stress?
Ben oui, et on le doit, alors pas que, hein, quand même un petit peu, monsieur Nicobi, on va dire, oh, l'autre, le faillot, il faillote encore auprès de Nicobi.
Oh, le faillot, il faillote encore.
En fait, ce qu'il a fait, c'est un excellent travail. En fait,
Il vous a piégé.
En fait, non, parce que c'est même couillon, vous vous rappelez, on l'a reçu un peu avant qu'il y ait des bulles.
Oui.
Et en fait, il était tout perturbé parce qu'il avait paumé ses binocles, que jamais il ne le retrouva d'ailleurs. D'accord. Et donc, elle a tellement perturbé qu'il avait oublié de nous dire qu'en collaboration au niveau de la rédaction des textes d'accompagnement, donc en travaillant avec M. Olivier Monet, voilà, ils ont repris des bandes dessinées de M. Gossens pour composer une anthologie de 77 à 1990. Alors c'est très rigolo parce que tiens c'est marrant parce qu'on parlait justement de l'achat coup de cœur. Voilà, là-dedans se trouvent compilées des histoires que tout bon amateur de comment dirais-je de Gossens se doit d'avoir. Sauf que quand même c'est pointu parce que l'ouvrage donc est divisé en différents chapitres avec à chaque fois un gros dessin de comment dirais-je de Monsieur Gossens, une couverture d'album de Monsieur Gossens ou de Fluide. Qui sert à messieurs Gottlieb, donc à pas messieurs Gottlieb, pardon, à messieurs Nicobi et Monet de nous expliquer des choses. Voyez, et là justement, on nous présente des planches qui sont parues, qui ont été regroupées dans un album qui s'appelle Gars de Gossens, que je n'ai absolument pas, donc j'avais jamais vu ne serait-ce que la couverture, les éditions Bédérama. Et ce sont des histoires qui, la science mystérieuse des grands anciens, c'était dans À suivre. Alors que Franquin et Delporte animaient une rubrique pendant ce temps à Landerneau. Et lui, et ces planches-là se retrouvent dans cette bande dessinée. Donc, c'est cool parce qu'on a quand même des histoires auxquelles on n'avait jamais eu accès. Ça, c'est... Et puis, il y a aussi, ce que j'aime bien, c'est tout ce travail de recherche, documentation auprès de M. Gossens, par exemple. Tu sais, ils reprennent une couverture d'un des albums de Gossens intitulé « L'esprit, le corps et la graine ». Et voilà ce qu'ils nous disent. « Les titres des albums de Gossens semblent parfois sortir de nulle part. Pourtant, si celui-ci est destiné à passer à la postérité, rappelons qu'il fait référence à une publication un peu snob de l'époque, « Psyché, Sama et Germain », d'un certain Boris Rybak, où se trouve exposée une théorie générale des causes de l'évolution des êtres vivants et de l'émergence du psychisme de l'homme, tout simplement. »
Ouais, ok.
Ça, c'est Monsieur Gossens. Ça ne rend encore, ça rend encore plus son travail complètement barré. C'est savoir que ce monsieur-là est professeur de comment d'intelligence artificielle, comme on dit depuis très très longtemps.
Ouais.
Et comment
il est en train de construire Skynet. Il va tous nous détruire.
C'est pas possible. Et seuls survivront ceux qui auront sa collection en complet. Il y aura des interrogations.
Vous serez les choisis.
Vous serez les élus. Et ça me fait penser à une histoire qui n'est pas dans cet album-là, mais qui est comme complètement fabuleuse. Vous savez, c'est fait partie des grands anciens. C'est « Mes amis !» On voit une espèce de dictateur qui tient une fiole. Il est sur un petit balcon. Il y a une foule gigantesque à ses pieds. « J'ai le secret dans cette fiole. Il y a le secret de l'immortalité. » Puissance absolue. Et puis, oui, la bouteille échappe et elle tombe par terre, cliché. Et là, gros silence. Et mes amis. Et ça se termine comme ça.
Ouais, voilà. Rions.
Rions un peu avant la fin du monde. On le doit à M. Gossens et à cette anthologie qui est parue aux éditions Fluide Glacial. Vous ne pouvez pas vous gourer un fort beau livre. Alors, comme vous dites, élégant, sûrement un peu plus cher que d'hab. Une anthologie de 77 à 90, Fluide Glacial. Et je ne peux pas vous dire le prix parce que moi, j'ai qu'une espèce de code barre que je ne sais pas traduire.
Alors,
c'est excellent.
Moi, je vais nous replonger un peu dans la dystopie, hein, je suis désolé. J'ai ramené l'album qui est très attendu de Mathieu Babelet, Silent Genie, le nouvel album. J'étais en train de comparer votre album et le mien pour voir lequel était le plus soigné, mais on est à peu près sur les mêmes choses. D'autres, le vôtre a l'air un peu plus grand. Moi, c'est un très beau bouquin
qu'a fait. Il est pas toilé,
moi,
mon dos.
Ouais, ah, moi, il est toilé. La Belle 619, Rue de Sèvres, ont fait un très bel album, un très beau comic books pour le Silent Genie. C'est vrai que Mathieu Babelet, il est très attendu. Hein, c'est l'auteur quand même de Shangri-La et surtout de Carbone et Silicium qui était sorti il y a quelques années, je crois que c'est vers 2020. L'histoire de deux androïdes qui observaient l'évolution de l'humanité sur un temps très très long. Mathieu Babelet, c'est de la SF assez cérébrale quand même. C'est de la SF pointue avec des thèmes qui reviennent très souvent, notamment l'écologie, la disparition de l'environnement et souvent les hommes comme responsables de tout ça. Là, pareil, on est un peu dans la continuité de Carbone et Silicium. Avec Silent Genie, on est dans un récit écolo post-apocalyptique, quoi. La couverture est très jolie et vous donne une idée de la qualité du dessin. Tu vois une espèce de ville sur roulette comme ça. Je vais partir de la couverture parce que c'est une histoire assez complexe. Les gens qui résident dans ces espèces d'immeubles roulants sont des monades. Tu vois un peu l'allusion des nomades. Pour eux, ils sont toujours en mouvement, ils doivent être toujours en mouvement dans leur ville, qui est presque comme un bateau d'ailleurs, parce qu'ils ont tous un drapeau, et il y a plusieurs communautés qui vivent comme ça, ils ont tous un drapeau qui est un peu, tu vois, leur signe de reconnaissance, leur blason, façon piraterie ou chevalerie. On va suivre un de ces monades, une de ces communautés, un peu libertaire, qui se donne ces mêmes principes, qui sont tous sous un point des qualités. Là, on va être dans le cherche-midi, hein, appelons-le le bateau, le cherche-midi, le monade, le cherche-midi. Eux, ils changent de fonction régulièrement, comme ça, ils se retrouvent en haut, en bas de l'échelle des activités, etc. Tu vas découvrir toute cette communauté et surtout, donc, le personnage clé, Jenny, qui, en fait, elle fait des allers-retours entre ces communautés itinérantes très libres et la ville, qui est, elle, dominée par une espèce de corporation, Pyrocorp.
Pyrocorp. Crache du feu.
Ouais, ben, Pyrocorp, c'est un peu, ouais, c'est ce qui reste, on va dire, de la civilisation, mais ça a un côté très, très Gazprom, quoi. C'est des villes, ça fait très soviétique dans l'ambiance. Tu sais, il y a de la bouillasse, de la misère, et tout tourne autour de le pouvoir de la corporation, qui est une espèce d'administration, tu sais même pas très bien ce qu'ils font, tu vas avoir beaucoup, en fait, de fonctionnaires, parce que elle, donc, le personnage de Genie part de ces communautés et va dans la ville parce qu'elle est micro. Alors là, c'est vraiment une idée délirante, très inspirée, à mon avis, des particules PIM. Pyrocorp a quand même une invention de génie. Ils ont une espèce de machine qui fait rétrécir les individus. Et ils peuvent, du coup, s'infiltrer dans le sol, etc., pour essayer de retrouver des traces ADN d'une espèce qui a complètement disparu et qui, apparemment, la disparition est responsable de la destruction, quand même, du monde. L'abeille, l'insecte pollinisateur, tu vois. Donc, en fait, tu vois, elle va vraiment chercher dans des fissures, elle s'infiltre dans l'ambre, etc., pour essayer de retrouver cet ADN. C'est un truc très risqué parce qu'on le découvre très vite. Quand tu rentres dans cette inframonde, quoi. Si t'as le moindre problème dans ta combinaison de plongée, eh ben, tu vas commencer à muter, tu vas commencer à te calcifier. Et quand elle rentre dans l'inframonde, des fois, elle tombe sur des anciens microïdes comme elle, mais qui sont complètement calcifiés ou qui sont devenus presque bestiaux, quoi, parce que c'est comme si tu régressais.
Okay.
Et tu vois, et que tu mutais. Alors, voilà. Donc, tu vas suivre cette personnage qui est un peu le cul entre deux chaises. Et autour de ce monde, il y a encore d'autres. Il y a un groupe que j'aime beaucoup, c'est les Manches Cailloux. Alors, eux, c'est les parias. C'est vraiment, mon cœur a été plus sensible à leur cause. Parce qu'ils sont rejetés de la ville, ils sont méprisés par les nomades. Et la ville les emploie, en fait, pour traquer les momades. En fait, ils abordent ces vaisseaux-là, ils les détruisent pour le compte de la compagnie, parce que nos itinérants, on voit bien qu'ils essayent de quand même faire pousser des fleurs en essayant de remédier aux problèmes de pollinisation, etc. On voit bien qu'ils essayent d'être autonomes, mais de temps en temps, ils se branchent quand même sur les tuyaux de la Pyrocorp pour choper de la flotte, enfin de l'énergie, etc., quoi. Donc, ils sont un peu mal vus. Et ça, c'est des parasites un petit peu. Et en fait, la ville utilise ces manches cailloux pour se débarrasser, quoi, comme des mercenaires. Ah, ah. Mais tout en les méprisant totalement, quoi. Et en fait, c'est très marrant. On les appelle les manches-cailloux parce que donc ils abordent les trucs avec des grappins. Tu vois, et pour les freiner, en fait, ils sont bourrés les manteaux de tas de cailloux pour être super lourds. Et le but, c'est de ralentir le truc et pendant qu'il y en a qui montent et qui le prennent d'abordage. Quoi. Il y a un côté piraterie qui est très, très drôle.
Il tue tout le monde.
Et il tue tout le monde, bien sûr, pour le compte de la compagnie. Alors, ça, l'univers est super bien. Le dessin est magnifique. Hein, vraiment, vraiment. Et puis surtout les couleurs. On est vraiment d'une atmosphère très chimique, très toxique. Tu sais, t'as une atmosphère rouille comme ça, avec des beiges. Vraiment, c'est vraiment là, sur le plan de la couleur, c'est hyper fort. C'est vrai, t'es vraiment déprimant, déprimant, pollué, tout sale, tu vois. Et mais après, l'histoire est un peu complexe et. C'est là où Mathieu Bablé, moi, par des fois, me perd parce que c'est quand même assez philosophique. On voit bien que nos personnages se posent plein de questions, mais c'est presque trop ardu pour moi. J'ai eu du mal, en fait, à accrocher aux personnages, à part à ces manches cailloux, là, que je trouvais tout misérable parce qu'on les voit vraiment se faire jeter de partout. Et vivre dans la crassouille. Les personnages principaux, et notamment la génie, j'ai pas tout compris. Alors sans doute que vous comprendrez plus.
Alors je sais pas, mais en tout cas je peux vous dire que j'ai vu une interview de ce monsieur, c'est marrant.
Ouais.
Et je m'en suis rappelé au moment où vous avez commencé à me parler de ces histoires de comment dirais-je, d'abeilles qui ont disparu. Mmh. Et comment...
Les questions écologiques, tu sens que ça travaille.
Ouais. Une interview de ce monsieur-là, je ne sais plus pour quel journal, et c'était très intéressant. Vous voyez qu'effectivement, il disait que les problématiques de fin du monde sont quelque chose de très présent.
Ça avait un côté très Nausicaa de Miyazaki, en fait, mais avec beaucoup moins d'action. Et la fin, je pense avoir compris... Mais je ne suis pas sûr que j'ai la bonne lecture.
Bah, je vous le dirai en antenne pour ne pas spoiler l'affaire, il le dit.
Il va falloir voyage temporel, qu'on aille retrouver notre invité pour les sentiers d'Anahuac, monsieur Romain Bertrand, qui avec donc au dessin Jean Dittard a fait ce très très bel album que vous allez découvrir avec cette interview. Attention, qu'est des bulles.
Listos. Like sun lays me down in my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to her mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown.
bien voilà, et bien voilà. Nous sommes toujours à Quai des Bulles, toujours pour l'édition 2025. Et nous sommes fiers, heureux de recevoir maintenant M. Romain Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, mais surtout scénariste de l'album Les Sentiers d'Anahuac, que vous avez réalisé avec Jean Dittard, au dessin, pardon, paru chez Delcourt, collection La Découverte. Mais vous êtes aussi, avant toute chose, historien. Vous êtes spécialiste des dominations coloniales européennes en Asie, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, et spécialiste de l'Indonésie moderne et contemporaine. Comme c'est pas tous les jours quand même qu'on reçoit quelqu'un avec un tel bagage, on se permet pour frimer un petit peu.
Oui, et puis c'est ça qui est rigolo dans le monde de la BD, c'est qu'il y a des gens qui viennent vraiment de partout. Parce que c'est, la BD, c'est pas votre milieu d'origine, finalement, on est bien d'accord.
Ah non, pas du tout. En tout cas, je conserve probablement un rapport très embryonnaire à la BD. Voilà, quelques souvenirs d'enfance. Alors, mon comparse de création, Jean Dittard, a essayé. Il a fait son possible pour me nourrir de références pendant les années où nous avons travaillé ensemble. Mais ça reste un univers qui, à la fois, m'est très étranger dans ses moyens graphiques propres et en même temps me parle assez, puisque, en vérité, images, mots, il faut de tout pour tramer un récit. Donc je pense qu'il n'y avait pas tant, finalement. Et j'ajoute que Jean Dittard a une particularité, c'est qu'il n'est jamais dupe de ses propres images et de sa propre façon de représenter. Voilà, c'est-à-dire qu'il sait que derrière chaque représentation, il y a une histoire. Mmh. Il y a une histoire qui nous parle, une histoire parfois de mésusage, c'est-à-dire d'images d'Épinal qu'on nous a mis dans la tête. Donc lui n'est jamais dupe des images. Moi, mon métier, c'est de n'être jamais dupe des mots. On s'est assez facilement retrouvé sur l'île du doute, quoi.
Alors votre album, je l'ai découvert par sa couverture, en fait, parce qu'elle m'a vraiment interpellé quand je suis rentré dans la librairie dont on taira le nom, mais où les auditeurs savent bien que nous allons régulièrement, parce qu'elle m'a renvoyé à Azteca. De Gary Jennings, oui. Si je ne me trompe pas, oui. Parce que j'y ai vu la même intention, à savoir rendre compte des conséquences culturelles de cette guerre des imaginaires qui est née en fait de la colonisation espagnole au Mexique. C'était vraiment ça l'intention de départ, rendre compte de cette guerre des imaginaires qui allait avoir lieu après la conquête.
Oui, alors il y a un certain nombre d'historiens spécialistes du Mexique espagnol. Et l'un d'entre eux, l'un des plus connus et français, c'est Serge Grusinski, qui a écrit il y a déjà quelques années un livre qui s'appelle « La colonisation de l'imaginaire ». Et dans lequel il dit qu'en vérité, la conquête des Amériques ne s'est pas jouée seulement sur le terrain de bataille, sur le terrain des armes, mais aussi dans une espèce de gigantesque offensive culturelle pour essayer d'inculquer de nouvelles manières.
Ce qu'on appelle le soft power aujourd'hui.
Exactement, du soft power, d'autres manières de penser, de se représenter le monde. Donc il y a la colonisation territoriale, militaire, et puis il y a la colonisation alphabétique, visuelle. Et ça n'est pas véritablement d'ailleurs un deuxième temps de la conquête, c'est-à-dire que ça ne commence pas quand les armes cessent de parler.
Ça va avec.
C'est complètement concomitant. C'est-à-dire qu'en vérité, le Mexique n'est pas en paix avant la fin du XVIe siècle, il ne le sera jamais véritablement. Après la conquête de Mexico en 1521, il y a des décennies de batailles ailleurs, à l'ouest dans la région de Oaxaca, plus au nord. Et dans le même temps, des religieux franciscains qui édifient des conventos, des petits monastères sur les collines, et qui mènent la bataille de la conquête des âmes par les images, qui demandent à des Indiens, Nahua, locaux, des peintres, de les aider à représenter les messages des écritures. Donc la guerre par les images et la guerre par les armes sont toujours allées ensemble, et même on pourrait dire que la conquête en vérité n'est qu'une affaire de mots à la fin des fins. L'Espagne a essayé d'imposer ses mots sur les sociétés qu'elle a tenté de soumettre, mais ça n'a jamais totalement fonctionné.
Alors comment s'est né ce projet de... Donc vous êtes enseignant. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit, tiens, est-ce que par le biais de la bande dessinée, je pourrais peut-être développer d'autres concepts qui ne sont pas forcément évidents à développer par le texte ?
Et vulgariser encore plus vos propos, en fait.
Est-ce que c'est ça qui vous a poussé ? Vous êtes à l'origine du projet ou est-ce que c'est Monsieur Dittard qui est venu vous voir ?
Tous les deux, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui a aussi un énorme... salon de la bande dessinée historique. J'avais lu Florida de Jean qui me paraissait justement essayer de dire par l'image ce que moi j'essayais de dire par les mots. Jean a lu mes livres et on a commencé à discuter. Et ça a été une conversation au long cours et à un moment donné on s'est rendu compte qu'on avait en fait une passion commune. Lui pour le Codex de Florence, cette étrange encyclopédie illustrée du monde d'avant, et moi pour le père Bernardino de Sahagún. Parce que pendant longtemps j'ai caressé l'idée d'en faire le conteur d'une contre-histoire de la conquête. Voilà, parce qu'il y a toujours ceux qui parlent fort, les conquistadors, Hernán Cortés, ses lettres au roi, etc., qui racontent l'histoire voilà, de manière un peu galopante. Mais il y a aussi des gens qui disent ah, « ça ne s'est pas passé exactement comme ça », ou alors « moi aussi, j'ai un point de vue, j'ai vu d'autres choses et tout ». Donc moi, j'étais fasciné par le père Sahagún, Jean était fasciné par le Codex de Florence, et on s'est dit « on va enquêter ensemble ». C'est vraiment pour ça une démarche de création conjointe. Ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas une commande d'éditeur, c'est un projet qu'on a mûri tous les deux et qu'ensuite on a amené auprès d'un éditeur, mais en se disant qu'on allait chemin faisant mener l'enquête. Donc moi, ben, l'historien, j'apportais parfois des sources, il y a des vrais morceaux d'archives traduits littéralement. En fait, dans
ce puis, un petit, juste un petit reproche, hein. Effectivement, y a même des, on n'a pas l'habitude hein, d'avoir des notes à la fin d'un album, mais par contre... Le choix du corps 6 pour les myopes, ouais. Je peux vous assurer. C'est l'éditeur qui a voulu faire son radin, dire tiens, je vais vous mettre du corps 6.
Voilà, bah, l'éditeur aurait préféré 10 000 signes que 40 000. Donc, évidemment. Mais oui, donc il y a littéralement, il y a par exemple à un moment donné un conquistador qui écrit au roi en disant que c'est inquiétant quand même cette histoire de religieux qui enseigne aux indigènes à parler latin et tout ça va mal finir. Bien, c'est une lettre qui est aux archives des Indes à Séville, d'un conquistador qui s'appelle Jerónimo López. Et j'ai pris des extraits, j'ai traduit littéralement. Donc il y a des vrais bouts d'archives dedans. Les scènes de la conquête de Mexico racontées par le vieillard, par l'anciano, en fait, c'est une traduction à 80% littérale du livre 12 du Codex de Florence.
D'accord.
Donc moi, j'ai amené des matériaux qu'on intégrait directement dans la narration. Et Jean amenait aussi des matériaux, parce que lui faisait son miel des codex mésoaméricains, y compris des glyphes, pour en faire aussi une des langues vivantes du récit. Parce que l'idée, c'était ça, c'est-à-dire que les codex mésoaméricains, on en a tous vu dans les musées, alors c'est derrière des vitrines, ça nous sidère, parce que c'est étrange, profond.
Et mais pas voilà. Tant que ça, parce qu'ils en ont détruit pas mal. Hein.
Ah, ils en ont détruit la quasi-totalité.
Ouais, c'est
quasi-totalité. Ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on organise souvent un espèce de face-à-face sidéré avec l'art mésoaméricain. C'est voilà.
En fait, les codex...
Mais comme si c'était mort, comme si tout ça était mort, ouais. Comme si c'était une langue
musifiée,
morte.
Voilà. Muséifiée.
Exactement. Nous, on a voulu en refaire une langue vivante, c'est-à-dire y compris une des langues de la narration. Et le langage des glyphes devient vraiment un élément de la narration bande dessinée.
Ouais. Mais c'est vrai que les codex, c'est complexe parce que c'est pas une mise en page comme on connaît, c'est circulaire, enfin c'est vraiment pas une narration linéaire comme on a l'habitude.
Exactement.
Et enfin, moi j'avais vu l'exposition sur le Mexica là, à Paris, et il y avait différents documents, et puis j'ai eu l'occasion de voir un petit peu des reproductions de codex pour dans mon travail. Parce que je m'en suis inspiré un petit peu. Et c'est vrai que c'est un peu désarçonnant, en fait. Et là où votre comparse, Jean Dittard, est très très fort, c'est que vraiment graphiquement, il a réussi à s'emparer de cette matière, à l'intégrer. Ouais. Les petits glyphes aussi, comme vous dites, les petits pictogrammes, là, quand un Mexicain parle, il y a cette espèce de petite volute.
Ouais.
Qui est utilisé, et puis il s'inspire aussi des gravures pour tout le côté espagnol, et on voit bien ces deux mondes qui cohabitent, des fois se mêlent, hein. Un personnage, un cacique va être représenté de façon très colorée, codex, dans un paysage très espagnol. Il a fait un boulot, mais vraiment hyper impressionnant, votre comparse.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui, il y a quand même du boulot derrière, ça c'est sûr.
On s'est dit avec mon comparse Roger, mais en documentation, mais vous avez dû y passer un temps fou, quoi.
Oui. Après, Jean est très méticuleux. Je suis chercheur, donc assez maniaque. Bon, la rencontre des deux, évidemment, a produit des effets. Des spirales de méticulosité, on pourrait dire. Mais ce qui est important, c'est que Jean, c'est en vérité un jeu complexe avec l'économie narrative des codex mésoaméricains, parce qu'il faut s'emparer de certains petits éléments pour en faire des éléments justement qui aident l'œil européen à se repérer. Les petits pas, par exemple, de personnages qui vous guident à travers une image. Donc cela, on leur donne un caractère actif dans la lecture, tout en gardant, et c'est aussi le rôle des doubles pages, l'aspect, vous l'avez très bien dit, non pas linéaire, mais en fait, faudrait dire éclaté ou rhizomatique, en fait, d'un codex. Un codex, il se comprend à la fois dans l'image d'ensemble et ensuite dans le détail. Il y a quelque chose là où l'œil ne regarde pas de la même façon. Donc il fallait préserver ça, tout en recréant du cheminement à l'intérieur de ça. Et ça, c'est ça qui a été un énorme travail en vérité.
En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'universalisme de la représentation, enfin du dessin, parce que, hop, pouf, pouf, même nous qui ne sommes pas habitués justement au style de, comment, indien, pouf, les petits pas, on comprend tout de suite vers où ça doit mener notre regard. Ce dont parlait Erwan tout à l'heure pour représenter les bulles, quelque part les ancêtres des bulles, finalement, les hommes avaient une façon universelle de communiquer quelque part. C'est...
Oui.
Il y a des points communs.
Oui, et en tout cas, l'idée de partir de cette langue morte et de montrer qu'elle peut redevenir une langue vivante, c'est justement faire le pari de montrer ce qu'elle porte en elle d'universel, effectivement. Donc qu'on puisse aujourd'hui avoir un lien à ce langage qui justement soit pas un lien muséifié, sacralisé, tenu à distance, comme si tout ça c'était la poussière du passé. Mais le passé, c'est en fait un réservoir de possibilités qui nous montre qu'on a pu être humain autrement et que ça vaut toujours. Voilà, par exemple, on a fait probablement un peu mieux dans notre rapport à la nature il y a quelques siècles dans certains endroits qu'aujourd'hui. Et ça fait partie de nous. Donc oui, c'est effectivement, on retrouve à travers ça, à travers cette universalité relative de la représentation, l'universalisme tout court. C'est-à-dire que cette histoire est notre histoire parce que toutes les histoires sont notre histoire. Tout ce qui est humain ne peut pas nous demeurer étrangers. Donc si à la fin des fins on lit ça en se disant ben oui, il y a des choses qui nous parlent, il y a un personnage qui est quand même assez improbable dans son destin qu'on suit, alors j'estime que peut-être on aura gagné une part du pari, quoi.
Là je vois le dessin final, on voit la mort qui emporte, enfin un squelette qui emporte un des personnages principaux du bouquin. Ça fait penser aux danses macabres qui illustrent encore certaines de nos églises, encore certaines après hop, que vous soyez riche ou puissant, la mort va venir vous chercher.
Exactement. Et je crois que l'inspiration directe, c'est les faces historiées de la mort. Donc on est vraiment 16e dans le début de ce nouveau moment macabre dans la représentation. Et en même temps, évidemment, il a la couleur
de
la fête des morts mexicaine.
Voilà. Alors on va suivre donc une entreprise de préservation de la culture mexicaine. Qui est impulsé par un père franciscain, Bernardino de Sahagún. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Parce qu'il a vraiment existé, donc, ce fameux père franciscain.
Oui,
et vous l'avez découvert, donc, comment, ce monsieur?
Quiconque, un jour ou l'autre, s'intéresse au Mexique du XVIe siècle, croise la route du père Sahagún. Parce qu'il croise la route du Codex de Florence. Le Codex de Florence, c'est cet objet absolument unique. C'est un manuscrit de plus de 2400 pages avec près de 2500 petites vignettes illustratives qui est une sorte d'encyclopédie du monde d'avant la conquête. Comment, avant la conquête, avant l'arrivée des Espagnols, avant la dévastation coloniale, on pensait le monde naturel, on pensait le rapport aux divinités, on pensait l'artisanat, on le pratiquait, etc. Et donc ce religieux franciscain arrive au Mexique après la conquête, une dizaine d'années après la conquête, et se rend compte en fait très rapidement que les premiers efforts de conversion des populations locales fonctionnent très mal. Parce que les populations locales, évidemment, vont à l'église, prient, chantent, jouent le jeu en surface, mais continuent à adorer clandestinement leur propre divinité et jouent même de similarités troublantes entre les calendriers rituels.
Ouais, voilà. Ça, ouais.
Il y a une scène qui montre que un jour d'adoration d'un saint, eh bien, en fait, le public local mexicain adore ses anciennes divinités. Donc le père Sahagún se rend compte que ça, c'est un vrai problème et que si on veut vraiment évangéliser, vraiment convertir, et donc vraiment sauver les âmes dans son esprit, eh bien, en fait, il faut comprendre mieux la culture locale. Mmh. Et il va partir dans cette quête quasi ethnographique, parce qu'il va se dire tout simplement, mais comment savoir ce qu'est cette culture? Il faut demander aux derniers témoins, donc il faut demander aux vieux, les ancianos, il faut aller les interviewer, et avec une petite équipe de disciples et de novices, qui sont eux-mêmes issus des sociétés locales, dont l'un de nos héros,
Antonio,
Eh bien, il va interroger les anciens et il va le faire pendant des dizaines d'années. Il va recueillir des récits, il va recueillir des chants, il va recueillir...
C'est très novateur quand même comme démarche pour l'époque, non ?
Oui, alors c'est à la fois très novateur. Disons que l'effet, ce qui est
très
novateur...
C'est pas innocent.
C'est voilà. pas innocent. Ouais,
c'est jamais innocent et c'est un personnage totalement ambigu, comme le XVIe siècle. Mm. Et un de nos grands historiens du XIXe, Michelet, disait le XVIe siècle, ce héros... Oui, le XVIe siècle, ce salaud aussi, c'est entre les deux. Et Sahagún, il est entre la volonté de comprendre pour éradiquer les croyances païennes, et en même temps, parfois, il y a quelque chose qui déborde, il y a de la fascination, de la vraie fascination. Plus il cherche à comprendre, plus il se rend compte que tout ça est en fait formidablement complexe, sophistiqué. Il trouve de la philosophie dans cette société qui est voilà, aussi développée que celle des anciens qu'il enseigne. Et donc, il y a des moments, il est à la lisière quoi, entre détestation et fascination.
Mmh. Ce qui fait que des fois, il se retourne même un peu contre les autorités espagnoles, parce que ça, vous le disiez, ça lui attire pas qu'un regard bienveillant.
Oui, parce que je voulais vous dire aussi, aller poser des questions aux gens et des questions précises pour les faire témoigner sur des tas d'aspects de leur vie quotidienne. Bon, y a des gens qui savent très bien faire ça à l'époque et c'est l'Inquisition.
Ouais, c'est ça.
Les archives inquisitoriales sont des archives absolument prodigieuses. Enfin, on a des interrogatoires de témoins et d'accusés qui font plusieurs
dizaines de pages.
Avec des traducteurs professionnels, et on les interrogeait non seulement sur ce qu'ils étaient censés avoir fait, mais sur leurs origines familiales, leur parcours professionnel, etc. Donc disons que des méthodes pour extraire de l'information, elles étaient à disposition, mais généralement pour des fins beaucoup plus répressives. Et peut-être que c'est une vraie hypothèse que le père Sahagún a utilisé cette méthode d'interrogatoire-là, mais pour des fins complètement autres. Mmh. Voilà, puisque lui-même avait été interprète pendant certains procès inquisitoriaux à Mexico.
Alors moi, ce bouquin-là, m'a fait penser au film Mission de Roland Joffé. Oui. Parce qu'on y voit le rôle des franciscains, qui semblaient, dans le film, les franciscains sont présentés comme étant beaucoup plus éclairés, beaucoup plus ouverts vis-à-vis des populations indigènes que ne seront les jésuites plus tard, puisque j'en sais rien. Il y a les jésuites, il doit y avoir les dominicains qui ne doivent pas être très cool.
Oui.
Et les franciscains paraissent, c'était propre à leur ordre, ça, d'être plus ouverts, plus open sur les civilisations qui leur échappaient.
En fait, il y a vraiment un grand débat au XVIe siècle là-dessus, qui est jusqu'à quel point peut-on s'approcher pour les comprendre des cultures locales sans se faire gagner par leurs croyances païennes. Il faut apprendre leur langue, il faut comprendre pour leur enseigner le message du Christ, pour traduire tout simplement les écritures dans leur langue, mais il faut faire attention. Parce qu'on risque à ce jeu-là, en fait, d'être contaminé d'être les perdants de ce jeu-là. Donc c'est un débat qu'on retrouve dans tous les ordres. Alors les dominicains sont souvent les plus intransigeants parce que les dominicains sont les plus associés précisément à l'Inquisition. Dans les experts auprès des tribunaux inquisitoriaux, les dominicains sont les théologiens de service, on pourrait dire. Les franciscains sont capables d'aller très loin, mais très loin parce qu'habités aussi par une foi quasi mystique. Mmh. Les franciscains du XVIe siècle vivent dans l'attente du retour du Christ et de l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Et un certain nombre d'entre eux sont convaincus que la conquête des Amériques, c'est l'un des derniers événements avant ça. Donc en fait, ils sont dans une espèce d'enthousiasme mystique qui fait qu'ils sont prêts, on pourrait dire, à parier beaucoup plus sur ces techniques d'évangélisation nouvelles que d'autres. Les jésuites, c'est encore autre chose, parce qu'eux, ils préfèrent en fait taper au niveau des dirigeants. Et Matteo Ricci en Chine, dans les mêmes années, 1580, lui va apprendre le chinois, va discuter de pied ferme avec des lettrés chinois pour tout doucement les amener à réaliser que dans leur propre culture, il y a déjà l'idée du christianisme, du Dieu unique, etc. Mais à un moment donné, Rome dira stop, par exemple. Voilà. Et c'est l'une des raisons, on ne peut pas dévoiler les épisodes de la bande dessinée, pour lesquels, en fait, cette entreprise du Père Sahagun, qui au départ vise à aider à la christianisation et donc à la conquête du Mexique, eh bien, va commencer à inquiéter beaucoup le vice-roi, l'église institutionnelle et même le roi d'Espagne, qui est l'un des plus puissants monarques du monde à l'époque.
Son sicarios. Muérdete en la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México, 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 es México, México.
Dans cette entreprise, on voit aussi comment l'État espagnol s'appuie sur des populations locales, enfin des populations locales, sur des jeunes hommes qu'elle formate auprès des religieux et qui servent là dans cette entreprise. Là, c'est, on voit arriver le personnage d'Antonio, qui lui aussi, d'après ce que j'ai compris, est réel quelque part.
Oui, tout à fait.
Et ces petits gars sont vraiment christianisés, éduqués, bien formatés et associés à l'entreprise de récupération qui va donner ce fameux codex de Florence.
Oui.
Il fallait qu'il y ait ce personnage d'Antonio. Et pourquoi vous avez choisi ce Antonio-là et pas... Parce qu'il y en a plusieurs.
Oui.
Il me semblait un peu particulier parce que j'ai l'impression que c'était des fils de cacique tous les autres. Et lui, il est associé au projet. Il est un peu trouvé dans la rue, en fait, au départ.
Alors oui et non. Parce qu'à un moment, il explique que...
Il a des oncles, il y en a un oncle.
Son père et son oncle étaient en fait de hauts dignitaires des dernières cours aztèques, pour aller vite. Ouais. La vérité, c'est que... Alors, on s'en explique dans l'épilogue, la question des origines sociales réelles d'Antonio, c'est une question irrésolue, en fait, chez les historiens. Mais en tout cas, oui, le projet des franciscains, c'est prendre des fils de l'ancienne noblesse locale, Nahua, Mexica, pour les christianiser, et plus que ça, pour leur enseigner la culture classique européenne, leur apprendre le latin.
Leur apprendre
le grec. Les rudiments de philosophie grecque, etc. Donc vraiment pour les former à un savoir qui va bien au-delà de simplement le savoir de la foi chrétienne. Et d'une certaine façon, ça marche trop bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment...
Parce qu'ils sont doués en plus.
Oui. Et ils sont incroyablement doués. Et pendant des décennies, on considérait que voilà ce que c'est... Jeune Nahua avait écrit en latin sous la houlette des franciscains. C'était du latin de cuisine, c'était des textes sans intérêt. Et aujourd'hui, les spécialistes nous disent que c'est du niveau du latin des grands humanistes européens.
Et c'est fou parce que ça veut dire que...
Antonio traduit Caton l'Ancien.
Ben ouais.
Antonio écrit des lettres au roi d'Espagne en castillan qui respectent toutes les règles complexe de la rhétorique néo-cicéronienne du XVIe siècle comme un Érasme ou comme un lettré européen. C'est à un niveau qu'on n'imagine pas en vérité.
Ils vont acquérir des compétences que nombre de clercs n'ont même pas en Europe en fait.
Oui, tout à fait.
Et ça m'a scié quand même.
Tout à fait. Et enfants de deux mondes, le monde de leurs ancêtres qu'ils essayent de retrouver à travers l'entreprise du père Sahagún, enfants de ce nouveau monde qui est le monde d'après la conquête espagnole, en vérité ils vont en forger un troisième. Mmh. Peut-être que le vrai nouveau monde, c'est le monde que forgent Antonio et ses compagnons d'une certaine manière sur les cendres des deux anciens mondes, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que le personnage d'Antonio nous amène bien plus loin qu'un simple biopic de Sahagún, parce qu'il nous projette dans un XVIIe siècle où effectivement il va y avoir des intellectuels, non seulement au Mexique, mais en Amérique du Sud, métis, qui se seront emparés de toutes les ressources de connaissance de l'Europe et qui essaieront d'écrire autrement leur propre histoire et nous projettent dans quelque chose de tout à fait inédit et inouï en vérité.
Il y a deux vignettes qui sont deux petites anecdotes qui arrivent à Antonio qui sont que j'ai trouvé très fortes, et justement parce que on voit bien que ça le questionne. La première, c'est quand il est avec un seigneur mexicain là qui sert d'intermédiaire, qui ramène des anciens pour un interview, pourrait dire ça comme ça, qui a cette phrase, je l'ai noté, tu as beau vivre parmi les colons, tu es un aiglon, ne te trompe pas de nid. Et on sent bien que ça le percute, cette phrase. Et comment vous avez pensé ce petit moment vraiment très très fort, quoi?
Je sais pas, il y a une deuxième partie dans la, si je me rappelle bien, qui est je ne te demande pas quel dieu
tu sers.
Tu sers.
Mais quels intérêts?
Non, je ne te demande pas quel dieu tu révères, mais quel pouvoir tu sers.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire apprends. Apprends à faire la part des choses entre ta foi chrétienne et les intérêts politiques de ton peuple. Parce que tu resteras, quoi que t'en disent les Espagnols, un Indien, au sens dérogatoire, péjoratif que ce terme avait. Ils t'élèveront peut-être en dignité, ils te confieront leur savoir, mais tu resteras toujours inférieur dans leur esprit.
Oui, d'ailleurs, quand il monte un peu dans la hiérarchie, à un moment, il y a un plafond de verre.
Oui.
Il obtient un poste administratif, mais il n'ira pas plus haut, quoi.
Tout à fait. Exactement. Exactement.
Ça reste un Indien.
Et donc, voilà, c'est pas un biopic de Sahagún, c'est l'histoire d'une rencontre entre Sahagún et Antonio qui va les transformer autant l'un que l'autre. Oui. Et à un moment donné, finalement, les chemins vont diverger. Et on suit autant et peut-être même un peu plus à partir de ce moment-là Antonio que Sahagún, parce qu'Antonio nous emmène vraiment ailleurs. Voilà. Et dans un ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment en vérité aujourd'hui, qu'on ne connaît pas très très bien, voilà, ce moment et ce monde-là.
Il y a une autre vignette qui est très très forte, c'est plus vers la fin, quand il bouscule un petit noir d'Afrique et qu'il découvre son dos zébré. Ça fait un pendant à une scène de départ où lui-même a été bousculé par un Espagnol. Ouais. Et là, pareil, on voit dans les yeux du personnage... Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi maintenant le gars qui bouscule, quoi.
Ouais, parce qu'on voit son fauteuil après, son siège de pouvoir. Ouais,
exactement.
Alors par contre, ça m'a fait penser au film français sur la controverse de Valladolid. Vous savez donc il y a tout ce débat est-ce que les Indiens ont une âme avec, je crois que c'est les franciscains qui prennent leur défense dans la controverse, je ne sais plus. Et à la fin du film, donc il est reconnu, effectivement on reconnaît aux Indiens d'avoir une forme d'intelligence et une âme, et le film se termine où on voit un esclave noir, un serviteur noir en train de balayer la salle du tribunal.
Oui.
Et où on se rend compte qu'effectivement, si les Indiens vont peut-être s'en sortir, mais pas les Noirs en tout cas, les Noirs eux rentrent en enfer.
C'est en vérité un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que très rapidement, dès les années 1520, avec des personnages comme Bartolomé de las Casas, naît un droit des Indiens. Donc en fait, on a assez peu douté qu'ils avaient une âme, mais la question était de savoir s'ils avaient des droits, s'ils étaient aussi des sujets du roi et de l'Empire. Et assez rapidement, ne serait-ce que pour des raisons de tranquillité politique, on a tranché en faveur du fait qu'ils avaient des droits et donc ils ne pouvaient pas être réduits en esclavage. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été par ailleurs exploités jusqu'à la mort et dans d'extrêmes souffrances. Mais en tout cas, dans les leyes de Indias, qui était le droit des Indes, eh bien, un indigène, un natif du Mexique, ne pouvait pas devenir un esclave. Qu'ont fait un certain nombre de colons, planteurs, etc. Ils se sont approvisionnés en esclaves ailleurs, c'est-à-dire via les réseaux de la traite atlantique qui était aux mains des Portugais à l'époque. Et c'est pour cela qu'il faut rappeler que Mexico, dans les années 1580, à la fin du XVIe siècle, c'est une ville dans laquelle on compte plusieurs milliers d'esclaves africains. Et donc le Mexique colonial s'est bâti non seulement sur la souffrance des Indiens, des populations nahua, mais également sur la souffrance des esclaves africains. Le XVIe siècle, ce salaud.
On l'a pas encore cité, mais son nombre plane, et puis vous le rappelez, il est incontournable, c'est le conquérant, c'est Hernán Cortés. On rappelle la Noche Triste. Oui. Et en fait, il y a un personnage qui accompagnait ce Hernán Cortés, qui est représenté, mais en fait, qui reste quand même dans l'ombre, la Malinche.
Oui, oui, oui.
On la voit, enfin, on la devine si on sait où regarder.
Oui.
Mais vous n'êtes pas attardé sur elle. Pourtant, elle aussi, quelque part, est un peu à la croisée des mondes, non? Elle ne vous a pas attiré?
Oh non, c'est pas ça. Alors la Malinche, d'abord, il y a beaucoup a été écrit sur la Malinche.
Il y a une très bonne BD sur elle.
Il y a une historiographie de la Malinche, mais qui par ailleurs est d'origine maya. Mm. Donc elle ne nous plongeait pas dans la mémoire de la conquête de Mexico comme les personnages entourant Sahagún. Donc il y a toute une historiographie de la Malinche. Mais il y a aussi toute une légende de la Malinche. Alors une légende dorée, une légende noire. La légende dorée, c'est qu'elle a été, elle a limité le choc de la conquête. La légende noire, c'est qu'elle a été la première vendue aux intérêts des gringos. Et au Mexique même, en fait, c'est un personnage extrêmement clivant. Extrêmement clivant dans ses versions très mythologiques, quoi. Non, c'est pas. Il y a des personnages de femmes aussi, et d'ailleurs de femmes assez puissantes en vérité dans l'album. Je ne peux pas dévoiler, mais bon, la mère d'Antonio...
Oui, elle va l'influer, c'est grâce à lui qu'Antonio va monter les échelles sociales.
Oui, oui. Donc il y a d'autres personnages de femmes puissantes. Mais la Malinche, d'abord, elle est d'avant, puisque c'est vraiment le moment de la conquête de Mexico, où on la voit à l'œuvre, entre 1519 et 1521. Et puis, c'est un personnage qui a été surinvesti aussi idéologiquement, symboliquement. Alors qu'Antonio... était un personnage entre guillemets vierge pour le grand public. C'est
Un mot sur la
couverture, peut-être.
Oui, quand même.
Est-ce que vous avez participé à l'élaboration de la couverture avec ce combat entre vous diraient entre le bien et le mal, ou alors entre justement deux cultures, avec le petit Antonio là qui regarde ça au-dessus avec le poids des deux cultures.
Alors j'ai été consulté parce qu'en fait c'est une image qu'on retrouve dans le corps de l'ouvrage lui-même, et puis Jean a fait plusieurs essais de couverture. En fait il l'a trouvé assez rapidement et j'ai été immédiatement convaincu. Voilà. J'ai été immédiatement convaincu parce qu'elle dit, je crois, à la réalité, c'est-à-dire que personne ne détient toute la vérité. Il y a le code graphique aztèque, il y a le code graphique colonial européen, et il y a le code graphique BD 20e, 21e aussi. Donc il y a plein de langages. Chaque langage nous permet de dire quelque chose, de faire ressentir quelque chose. Si vous cherchez quelque chose comme une vérité très assurée, très arrogante, je ne suis pas sûr que c'est chez nous que vous la trouverez. Voilà, parce qu'on a voulu faire parler tout le monde d'une certaine manière. Ça donne la parole tour à tour, oui, aux conquérants, aux conquistadors, aux franciscains, aux novices du Colerio, qui dès les portes refermées le soir, dans leur dortoir, évidemment, chuchotent entre eux des vérités que les frères n'ont pas envie d'entendre. Donc c'est un peu ça qu'on voulait montrer. Je trouve que du coup, la couverture le capture assez bien.
Et ça annonce vraiment tout le travail graphique de Monsieur Dittard. Il y a même les petits pictogrammes au-dessus du petit volcan.
Et Jean voilà, a fait un travail assez titanesque, hein, de documentation, voilà, de dizaines de codex qu'il a littéralement disséqué, réarticulé. Voilà.
Alors on tient à dire à nos auditrices et nos auditeurs qu'on peut avoir eu une discussion qui peut paraître très pointue, etc. Mais c'est un ouvrage dans lequel on rentre très très facilement. Le graphisme, comment dirais-je, la façon de retranscrire les idées des Indiens, finalement, elle est pas si éloignée que ça de la nôtre. Je trouve qu'on y rentre très facilement, comme le soulignait Erwan, avec qu'on voit quand les gens parlent, les gens se déplacent, le sens de la lecture, etc. Donc un ouvrage dont je pense qu'il va remporter en tout cas une grande adhésion auprès des lectrices et des lecteurs. Voilà.
Du coup, vous avez pris peut-être goût à la BD. Vous avez déjà d'autres projets dans le 9e art?
Avec Jean, on discute toujours un peu de quelque chose. Ah. On a toujours des sujets qui...
Et vos collègues de la Sorbonne, comment ils voient ça? D'un bon œil ou d'un mauvais œil, ce genre de truc? Parce qu'il dit, c'est pas un bon vieux bouquin encore doux, encore 6, ouais, avec des tonnes de notes et de références dûment vérifiées.
Mais moi, j'ai la chance d'alterner les deux. Donc, il y a 2 ans, j'ai publié Les Grandes Déconvenues, qui est un très gros ouvrage de 450 pages sur le premier voyage des Français en Asie au XVIe siècle. Donc, je fais ça. Et parfois aussi, je fais ça. Mais je n'y vois aucune contradiction et je n'ai pas de volonté particulière de vulgarisation, qui est un terme que j'aime pas. Voilà. Vous savez que maintenant, dans les comptes rendus du CNRS, on ne dit pas vulgarisation, on dit diffusion de l'information scientifique. Voilà. Et qu'il s'agisse d'aller parler à des élèves en collège ou lycée, de passer par d'autres moyens, graphiques le cas échéant, d'aller à la rencontre des gens dans les librairies ou ailleurs. Oui, c'est ça. C'est de la diffusion de l'information scientifique. Et j'ai pas l'impression de faire un autre métier quand je fais ça que celui que je fais chaque mercredi matin devant mes élèves dans une classe. Voilà, quand il faut qu'à mes étudiants, j'explique des choses.
Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup, Monsieur Romain Bertrand. L'heure tourne malheureusement et puis on a encore un petit peu de boulot. Vous aussi, j'imagine.
On est en retard.
Déjà. Voilà. Et on vous remercie d'avoir passé cette demi-heure avec nous et on souhaite longue vie au sentier d'Anahuac en tout cas.
C'est moi qui vous remercie.
yes, inflation, I understand, just a little.
No comprende, it's a riddle.
I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican, whoa, radio. I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican, whoa.
Voilà, j'espère que vous avez été convaincus et que vous, franchement, il faut lire, je crois, ce très bel album. Je suis sûr qu'il va être primé, ce truc, ou qu'il va être dans des listes, dans des best-of. Les Sentiers d'Anahuac. N'oublions pas, c'est moi qui l'ai chroniqué. Enfin, qui l'ai choisi. On n'oublie pas.
Je l'ai choisi, mais comment on dirait ? Non. On va se le mettre à deux.
Parfaitement.
Et tant qu'on y est à se mettre à plusieurs, alors, on n'en est pas encore à faire la quête. Mais effectivement, si les nouvelles, les mauvaises nouvelles dont nous a tenu informés, effectivement, les responsables de notre association devaient se confirmer, comme ça a sûrement déjà été dit de nombreuses fois sur cette antenne, on risque d'avoir des sous. Aussi, je lance un appel solennel. Vous êtes ministre de la Culture, vous avez trop de bijoux. vendez 2-3 cailloux et donnez-les au fonds d'expression de soutien aux radios associatives. Vous feriez une bonne œuvre. Et puis voilà, ça justifierait peut-être votre présence au ministère de la Culture quelque part.
Oui, il y a des rumeurs effectivement très inquiétantes de coupes budgétaires qui viendraient nous impacter, nous et plein d'autres. Et plein d'autres dans l'affaire Arock, j'imagine, et dans d'autres associations.
Pas seulement dans l'affaire Arock, c'est toutes les radios associatives.
Viendrait impacter sérieusement les budgets et sans doute être fatal. Façon petit label indépendant de la BD, tac, 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 ça va tomber comme un gravelotte, je pense. N'hésitez pas à en parler et puis à nous faire un chèque.
Alors c'est Roger Fringot, boîte postale 12.
Soupli discret. En tout cas, la semaine prochaine, donc en compagnie normalement de Miss Matadora, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et je pense qu'on va faire du top. On va faire du top, on va voir qui t'a les meilleurs.
Non, c'est nul ça. On n'aura pas le temps d'en parler.
La semaine prochaine, tant qu'on est là.